Bonjour tout le monde, je suis Steven Downs. Nous sommes prêts à commencer mon conférence en français à Edmundston.
Alors, mesdames et messieurs, avec vous, c'est vrai que j'ai un petit peu de temps. Je vous ai fait un peu de à vous approcher. Mais je vous demanderai une première fois, s'il y en a qui veulent rester debout. Madame Tadbella a oublié de me laisser son écharpe. Alors, j'ai tout le droit et j'aurais besoin de me réchauffer. Alors, on va faire quelques petits mouvements de gymnastique pour se mettre en forme avant la prochaine conférence. À tout le monde debout, s'il vous plaît. On est au bras. On est au bras. On est au bras. On est au bras. On est au pied. On est au pied. Hey, I went to survive. Let's get it done. Petit du gymnastique que nous referons à l'occasion pour nous mettre un petit peu dedans pour se réchauffer. Alors, pour la prochaine conférence, le titre est la résurgence de la communauté dans l'apprentissage en ligne. Et j'ai un ami qui s'appelle Gilles Guillaume, qui m'a déjà dit, j'ai les murs du cerveau tapissés. Et je pense que notre prochain conférencier a les murs du cerveau tapissés. Monsieur Steven Downs travaille pour le Conseil national de recherche du Canada. Il est spécialisé dans le domaine de l'apprentissage en ligne, les nouveaux médias, la pédagogie et la philosophie. Il a publié plusieurs articles à la fois en ligne de son papier, dont un qui s'intitule The Future Online Learning. Ça revient avec quelques réserves d'avenir finalement. Et nous parlerons des fameux MOOC, ces Massive Online Open Course, qui auront un impact sur l'avenir de l'enseignement à distance. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce que sont les MOOC partagés, les MOOC développés, les MOOC mondiaux. S'il vous plaît, M. Downs, aidez-nous à démocratiser tout ça.
Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est mon quatrième conférence en français. Je suis heureux de pouvoir parler en français. Je suis en anglais, mon français n'est pas fort, mais je sais. Et pour la première fois, une expérience, j'utilise un téléprompteur. Je ne sais pas si c'est le mot correct, mais comme j'ai dit, c'est un expériment. Aussi, nous sommes en Google Hangout maintenant. Il y a une diffusion avec zéro viewers. C'est comme mon station de radio, toujours avec zéro listeners. Mais on peut voir après l'enregistrement de cette présentation sur mon canal Google, c'est google.com/users/Steven Downs, ou quelque chose comme ça, cherchez pour Steven Downs et Google et YouTube. Ou cherchez sur mon site web www.downs.ca. Alors, bonjour tout le monde sur l'internet. Et bonjour tout le monde ici. Je vais commencer. J'ai mon clicker, mon téléprompteur. Est-ce que c'est le mot correct, téléprompteur?
Souffleur.
Pardon?
Souffleur.
Souffleur?
Non, oui, c'est un pointeur.
Non, non.
Souffleur.
Souffleur, OK. It could fail utterly. Bon, mon objectif dans le cadre de cette présentation est d'examiner comment les MOOC ou les cours en ligne ouverte et massive influenceront l'avenir de la formation à distance et, en particulier, des stratégies et des exemples de l'utilisation des MOOC pour promouvoir la diversité linguistique et culturelle. Je soutiendrai que les MOOC nous offrent une nouvelle façon de comprendre l'apprentissage et, par conséquent, une nouvelle façon de comprendre certains types d'apprentissage, comme c'est le cas, par exemple, de l'apprentissage qui appuie la diversité linguistique et culturelle. En clair, mon expertise se situe dans le domaine de l'apprentissage ouvert et en ligne, et non dans le domaine de la diversité de linguistique et culturelle. Par conséquent, mon discours ne peut que mener la discussion jusqu'à un certain point. J'espère offrir un point de départ pour cette discussion. De plus, je tiens à préciser que lorsque je parle de MOOC, je parle d'un différent type d'apprentissage. La plupart d'entre vous êtes déjà familiers avec le cours en ligne traditionnel qui est basé sur la présentation de contenu et d'informations et basé sur un curriculum précis à retenir. En outre, ce que vous avez vu au sujet des MOOC, les cours en ligne offerts par les universités américaines comme Harvard, Stanford, MIT, ces MOOC sont également des exemples d'apprentissage traditionnel en ligne, avec un contenu et un curriculum. Mon interprétation du terme MOOC est un peu différente. Elle est dérivée d'une théorie d'apprentissage basée sur l'engagement et l'interaction au sein d'une communauté de praticiens sans résultat prédéterminé ni de base de connaissances que nous pouvons simplement transférer à l'apprenant. De plus, mon interprétation du terme MOOC repose sur 5 ans d'expérience à concevoir et à offrir des MOOC. Le tout premier MOOC, le CCK08, que j'ai créé avec George Simmons en 2008, est offert 4 fois au cours des années suivantes. Au MOOC en environnement d'apprentissage personnel et l'écurité critique, et plus encore. Permettez-moi donc de commencer par la définition. L'acronyme MOOC, comme nous le savons, signifie Massive Open Online Course, ce qui nous donne 4 termes, massive, ouvert, en ligne et court. J'ai oublié le clicker. Incroyable. Comme j'ai dit, c'est ma première fois avec il n'y a pas l'indication avancée. Les... Oh mon Dieu. Ah, excusez-moi. Des nombres. Je commence encore. De nombreux efforts ont été déployés récemment pour définir chacun de ces termes donnant parfois lieu à une interprétation contraire à l'interprétation commune du terme. Pour certaines personnes, le MOOC peut être perçu comme petit, fermé et hors ligne. À mon avis, la définition du MOOC devrait être relativement stricte, ne serait-ce que pour distinguer le MOOC des autres formes d'apprentissage en ligne qui ont existé avant et depuis de se faire identifier les aspects de la qualité propre au moot. Selon moi, le moot est donc défini en fonction de quatre dimensions suivantes. D'abord, massive. Je ne parle pas nécessairement ici du succès du MOOC à attirer beaucoup de personnes, mais des éléments de la conception qui permettent d'offrir une éducation à plusieurs personnes. Ma propre théorie de l'éducation est minimaliste, tellement qu'on ne peut guère la qualifier de théorie. Et ce n'est certes pas la mienne. Enseigner, c'est modéliser et démontrer. Apprendre, c'est pratiquer et réfléchir. Par conséquent, il me faut un environnement qui soutient au moins ces quatre éléments à grande échelle. En pratique, cela désigne un système conçu pour prévenir la création de douleurs d'étranglement dans l'un ou l'autre des quatre attributs, le modelage, la démonstration, la pratique et la réflexion. Deuxièmement, ouvert. Une chose, une ressource, un cours, une éducation est libre et ouverte si et seulement si il est possible de lire, exécuter, utiliser ou transmettre la ressource sans coût ni obligation. Cela comprend non seulement les droits directs d'acquisition, mais également l'inclusion, par exemple le groupement de ressources gratuites, de sorte à ce que seuls ceux qui payent les droits d'acquisition peuvent y accéder. Deuxièmement, il existe des moyens raisonnables de partager ou de réutiliser la ressource, en particulièrement de traduire ou de changer le format de la ressource, mais pas nécessairement d'être en mesure de vendre ou de modifier la ressource. Pourquoi offrons-nous des cours ouverts? Percevez un cours comme un lac. Si une langue est fermée, elle se tient. Pour permettre aux gens de réellement participer à la culture d'une discipline, qu'il s'agisse de physique, de chimie ou de sciences politiques, le contenu et le matériel de la discipline doivent être ouverts. Le danger existe qu'un groupe culturel ou linguistique se retenira sur lui-même devant un tel risque. J'examine, par exemple, la publication dans des collectifs comme la Finlande et le CIB, et je constate que l'accès ouvert est très limité, puisque les éditeurs supposent que les Suédois ou les Finlandais n'ont aucun autre recours. Ce qui est faux, comme nous le savons, quand ils ont accès au contenu ouvert en ligne, en langue anglaise. En ligne, troisièmement. Pour qu'un MOOC soit en ligne, et je choisis mes mots avec précaution, aucun élément obligatoire de cours n'est tenu de cas d'occuper un emplacement physique déterminé. Le fait d'être en ligne est-ce qui permet à ces cours d'être à la fois massifs et ouverts, alors qu'un étant offert à un endroit spécifique, il devient petit et fermé. Toutefois, cela ne signifie pas que les MOOC ne peuvent inclure ou permettre des éléments d'interaction ou des activités du monde réel. En fait, la meilleure utilisation du MOOC implique certaines activités hors ligne dans le monde réel. Par exemple, notre MOOC d'origine, le CC1408, recommandait, mais n'exigeait pas des rencontres en personne qui étaient tenues à divers endroits dans le monde. Des MOOC comme le DS206 demandent qu'une personne sorte à l'extérieur prendre des photos, par exemple. Dans tout cours en ligne, il y aura une dimension réelle. Ce qui a fait un cours en ligne, est-ce qu'il ne spécifie pas une dimension réelle particulière? J'en discuterai davantage dans quelques minutes. Et quatrièmement, cours. Précisément. Un cours est limité par une date de début et une date de fin. Un cours doit adhérer à un certain domaine de discours ou thème commun. Un cours est une progression d'événements ordonnés liés à ces domaines. Pourquoi insister sur ces points? À part, bien entendu, l'observation pédante que si vous appelez quelque chose un cours, qu'elle devrait avoir les propriétés d'un cours. Ma propre observation est que la création d'événements temporaires et limités permet un engagement entre des communautés qui ne seraient normalement pas associées les unes avec les unes aux autres. Les cours sont une façon, si je peux dire, de remuer les choses. En créant un événement limité, indépendant, nous réduisons les obstacles à la participation. Vous ne signez pas un engagement à vie, améliorant ainsi l'accessibilité. La façon dont nous élaborons un cours vise à définir un cours de 6 ou 12 ou même 30 semaines portant sur des exposés, chacun sur un sujet différent qui roule vers un domaine d'enquête. Nous avons également organisé des séminaires dont beaucoup étaient animés par des experts invités. Mais la sérieuse similitude avec un cours traditionnel, nous n'exigeons pas que les jeunes étudiants les exposent. Ils sont optionnels. En fait, ce que nous disons par le base de cette structure, est que nous, les auteurs de cours, étudierons ce matériel et nous invitons les gens à participer. L'aspect important d'un cours connectiviste n'est pas le contenu du cours. Il y a bien entendu un certain contenu. Il est possible d'avoir une conversation sans contenu, mais le contenu n'est pas l'élément important. Il sert simplement de catalyseur, de mécanisme pour mettre en œuvre nos projets, les discussions et les interactions. Il peut être utile pour certaines personnes, mais ce n'est pas le produit final. Et nous ne voulons certainement pas que les gens ne prennent pas cours. Permettez-moi d'expliquer pourquoi nous retenons cette approche. Nous soutenons que les connaissances sont distribuées à travers un réseau de connexions et par conséquent que l'apprentissage consiste en la capacité de construire et de traverser ces réseaux. Les connaissances ne sont donc pas acquises comme s'il s'agissait de choses inertes. Elles ne sont pas transmises comme s'il s'agisse d'un mode de communication. Vous ne pouvez faire la promotion d'une chose simplement en assemblant des trousses de clous et en les distribuant au monde entier. Les choses que nous apprenons et les choses que nous connaissons sont littéralement les connexions que nous formons entre les neurones en fonction de l'expérience. Le cerveau est composé de 100 milliards de neurones qui forment quelques 100 milliards de connexions. Et ce sont ces connexions qui constituent tout ce que nous connaissons, tout ce que nous croyons et tout ce que nous imaginons. Et bien qu'il soit pratique de parler comme si les connaissances et les croyances sont composées de phrases et de concepts que l'on acquiert et mémorise en quelque sorte, il est plus exact et plus utile sur le plan pédagogique de traiter l'apprentissage comme la formation de connexion. Du point de vue du cours, cela signifie que le fait de suivre le cours est en soi beaucoup plus important que le contenu appris par les participants durant le cours. C'est comme l'apprentissage d'une langue que je tenais bien. Il est possible de prendre une langue en théorie en étudiant des livres comme une personne étudierait le latin. Toutefois, pour apprendre parfaitement une langue, il est essentiel de se plonger dans les activités quotidiennes et la culture des gens qui la parlent. Encore là, il est tentant d'affirmer que les gens apprennent certaines choses lorsqu'ils apprennent une langue, qu'il existe un certain contenu associé pour parler cette langue. Le sens des mots, par exemple, ou encore la conjugaison des verbes, cela est toutefois faux et trompeur. Les définitions du dictionnaire et la conjugation des verbes sont au mieux une abstraction de l'ensemble beaucoup plus complexe des pratiques, des habitudes et des croyances communes sur le parleur. Puisqu'il s'agit d'une abstraction, une telle description ne peut être exacte et pourrait même induire les gens en erreur quant à la définition réelle d'une parleur. Une personne qui ne fait que connaître le contenu soi-disant enseigné et faisant l'objet d'évaluation à une académie de langue aura nettement l'impression de ne pas être à sa place dans un rassemblement de paroles. C'est comme si on connaît les paroles sans connaître la musique. Un cours connectiviste de vie dans une communauté d'étudiants qui tente de prendre comment ils apprennent dans le but de leur permettre d'aider d'autres personnes à apprendre. Nous sommes tous des étudiants qui créent et promeuvent la pratique connectiviste de l'éducation en la pratique réellement. En pratique, l'enseignement et l'apprentissage connectiviste comprend quatre activités principales. Le premier, agrégation. Le but d'offrir un cours est de fournir un point de départ, d'offrir une diverse chose à lire, additionnelle avec laquelle s'amuser. Beaucoup de contenu est associés au cours depuis les instructions relativement simples aux arguments, et aux discussions juste entretiens de haut niveau avec des experts dans le domaine. Le cours est composé non seulement de lectures recommandées, mais également d'articles de vidéo et d'enregistrements réalisés par les animateurs du cours, des billets de blog, de vidéos et d'autres enregistrements réalisés par les participants au cours, des micro-messages retenus sur Twitter, des signettes de Delicious, des billets de discussion ou autres. Encore une fois, si nous établissons une comparaison avec l'apprentissage d'une langue, c'est comme si nous disons à une personne de choisir parmi de vrais livres, de vrais articles, de journaux et de vraies conversations. L'élément principal ici est la diversité. Cela comprend la diversité de formats. Nous voulons des textes, des vidéos, des animations, des jeux, des séminaires ou autres, puisque les gens préfèrent utiliser différents médias. Toutefois, cela comprend également des langues et des perspectives différentes. Dans tout le monde, et non simplement dans les MOOC en français, il serait pertinent d'inclure des ressources en langue française. Une des choses que j'ai apprises en apprenant plus d'une langue est que chaque langue perçoit le monde différemment et qu'elle représente le monde différemment. Je prends une petite pause pour le café. Merci. C'est good to see you. How are you? Comme ça. Je préfère, comme habitude, à parler sans lire, mais en français, je parlerai trop lentement pour une bonne conférence. C'est difficile à parler vite. Bon, ok, la restructuration. La prochaine étape consiste à établir des liens. L'objectif est d'associer le matériel ou des parties du matériel ensemble et avec le matériel provenant d'ailleurs. Il existe différentes façons d'associer du matériel. Généralement, nous cherchons certains points communs, comme un terme, une référence, un sujet ou une catégorie. Parfois, nous cherchons une correspondance comme si une chose découlait d'une autre. Il n'existe aucune règle d'association. Et une partie de l'apprentissage consiste à discerner ce qui va avec quoi. Ce que nous encourageons particulièrement ici est un mélange de cultures différentes. Nous ne cherchons pas à créer une fusion, mais à mettre en évidence la perspective unique offerte par chacun. Vous pouvez constater ici qu'un MOOC idéal nécessite la participation de sociétés différentes et de groupes linguistiques différents. Les jeunes demandent souvent s'il existe des MOOC en langue française et des ressources d'apprentissage en langue française. Et les questions méritent d'être soulevé. Cependant, je crois que la question la plus pertinente consiste à déterminer s'il existe une culture de langue française associée au cours existant. Nous l'avons constaté dans nos MOOC connectivistes par le biais des activités dans la communauté hispanophone. Les connectivistes qui organisent leur propre événement dans leur propre langue, en ligne et hors ligne, autour de notre cours, ouvert en ligne. Leur perspective est devenue une partie importante de notre cours en ligne. Et les idées et la culture hispanophone sont devenues partie intégrante du contenu lui-même. Troisièmement, j'aime ça. Ce n'est pas mon chat. Mais c'est proche de mes chats. Nous ne voulons pas que les participants répètent simplement ce que d'autres personnes disent. Apprendre n'est pas simplement un processus de réception et de filtrage. Howard. Il est important de créer quelque chose et de participer activement à la discipline. Le matériel qui a été agrégé et restructuré en ligne représente la structure qui peut être utilisée pour composer des idées nouvelles et une nouvelle compréhension du matériel. Quelle idée? Quelle compréhension? C'est ce que nous créons dans le cours. L'adaptation est parfois un processus de traduction. Prendre une idée d'une culture et la représenter selon la forme et les idiomes d'une autre culture. Cela peut être aussi simple que de traduire un bloc de texte en image, ou aussi difficile que de représenter une idée complexe dans une autre langue. Une des raisons pour lesquelles je présente ces conférences en français est pour apprendre le français et ce processus. Il s'agit de ma quatrième présentation en français, comme j'ai dit. Mais m'en a appris plus que des années d'enseignement. Une autre raison pour laquelle je présente ces conférences en français est pour en apprendre davantage sur le thème de la présentation. Et vraiment, je prends comme ça. J'ai un sens différent de l'apprentissage et de la théorie connectiviste par parler en français. C'est intéressant. On doit avoir l'expérience avant de comprendre exactement comme ça va. Quatrième, circulation de l'information. Nous voulons que les participants partagent leur travail avec les autres participants du cours et avec le monde entier. Précisons que les participants ne sont pas obligés de partager. Ils peuvent travailler de manière complètement autonome, sans montrer quoi que ce soit à personne. Ils seront toujours libres de choisir s'ils veulent partager ou non. Mais, comme nous le savons, il est plus difficile de partager en public. Les gens peuvent voir vos erreurs. Les gens peuvent vous voir essayer des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. C'est difficile et c'est parfois embarrassant, comme je sais. C'est toutefois mieux. Vous redoublerez d'efforts, vraiment. Vous penserez plus à ce que vous faites et vous en tirez une plus grande satisfaction. Les gens verront ce que vous avez créé et apporteront leur commentaire. Ils seront parfois critiques, mais le plus souvent, ils offriront leur appui, leur aide et leurs éloges. Vous savez ce qui suit, je n'ai pas besoin de vous le répéter, mais je le ferai tout de même. Lorsque vous parlez ou que vous écrivez dans votre propre langue, dans un domaine public, à propos d'un sujet ou d'une discipline, vous semblez dire « ma langue englobe cette discipline ». Il n'existe pas simplement une culture française, un point c'est tout. Il existe une culture française qui englobe la physique, la chimie, l'économie et même, je suis désolé de le dire, la science politique. Mais surtout, on doit préciser qu'une partie des domaines de la physique, de la chimie et de la science politique est informée par la culture française. Les philosophes ne le savent que trop bien. Pouvez-vous imaginer la philosophie sans les contributions de Descartes, Pascal, Camus, Sartre et Derrida? Pouvez-vous imaginer la philosophie sans l'influence de la langue sur leur contribution? Permettez-moi de revenir à l'idée d'utiliser le cours en ligne ouvert et massif pour promouvoir la langue française et la culture. Il existe un défi intrinsèque à l'idée de dire que l'objectif d'un MOOC est de promouvoir la culture ou que l'objectif d'un MOOC est de promouvoir une certaine idée ou un certain concept. Il se rapproche de l'idée que l'objectif d'un MOOC est d'aider une personne à apprendre. Il s'agit après tout d'un cours. Toutefois, les objectifs ne sont jamais aussi transparents. Les organisations ont de nombreux motifs lorsqu'elles offrent des MOOC. Coursera, par exemple, pourrait vouloir appuyer l'apprentissage, mais il s'agit également d'une entreprise qui désire faire de l'argent. Une organisation culturelle peut vouloir promouvoir une idée, mais elle a également des besoins financiers et elle cherchera bientôt des modèles commerciaux pour maintenir son cours en ligne. Toutefois, les jeunes ne suivent pas un MOOC afin de réaliser les objectifs de fourniture du MOOC. Une personne ne s'inscrit pas à un cours de Coursera puisqu'elle désire que Coursera fasse de l'argent. Pas plus qu'un étudiant ne s'inscrit à Penn State pour donner au professeur la chance d'expérimenter sur lui. Il est tentant d'affirmer qu'une personne suit un cours pour apprendre quelque chose. Toutefois, même cette affirmation peut être trompeuse. L'ajout de droit de scolarité change la dynamique, tout comme l'ajout d'un titre de compétence à la fin du cours. Coursera a appris qu'elle peut gagner de l'argent en facturant pour les services d'authentication. Et ce qui répond à la fois à son besoin de faire de l'argent et au besoin de l'étudiant d'obtenir un certificat, bien que ce soit au détriment de ne plus être gratuit et ouvert. Plusieurs étudiants laisseraient complètement le cours de côté et passeraient tout de suite à l'obtention du titre de compétence, comme ils le font lorsqu'ils achètent un diplôme de moulant à diplôme. Après réflexion, il devient évident que les MOOC répondent à plusieurs objectifs, tant pour ceux qui offrent les MOOC, ceux qui offrent des services et ceux qui s'inscrivent ou qui, d'une façon quelconque, suivent le MOOC. Le MOOC d'origine que j'ai offert avec George Siemens avait un objectif très simple au départ, nous expliquer. Le sujet de connectivisme, qui était le sujet de la conférence en ligne mentionnée, était devenu largement répandu et faisait pourtant l'objet de nombreux débats. Lorsque nous avons commencé à élaborer le cours, il est devenu évident pour nous deux que l'objectif du cours était également de servir d'exemple pour le connectivisme en pratique. Par conséquent, la conception du cours a progressivement commencé à ressembler de moins en moins à un cours traditionnel et plus à un réseau incluant un vaste gramme de ressources reliées entre elles et aux participants. De plus, le cours est devenu moins axé sur l'acquisition de contenu ou de compétences et beaucoup plus sur l'établissement de ces liens et les leçons tirées de ce qui en est ressorti. Les participants à nos MOOC ont également démontré un éventail de motivation semblable. Plusieurs participants ont suivi le cours pour les occasions de recherche offertes. Et des personnes comme Jenny McNass, Francis Bell, Sufei John Mack sont devenues des voix respectées dans le domaine. D'autres ont participé avec l'intention d'en apprendre davantage sur le connectivisme pour terminer leurs études existantes dans un programme de maîtrise ou de doctorat. D'autres se sont joints à nous pour participer à ce qu'ils considéraient comme un événement. D'autres pour établir des liens et élargir leur réseau social, ou comme on l'appelait plus tard, leur réseau d'apprentissage personnel. Même si nous concentrons nos efforts sur ce qui est soi-disant la fonction première d'un corps, c'est-à-dire d'enseigner, il devient difficile d'identifier l'objectif de MOOC. C'est difficile. Des personnes différentes désirent apprendre des choses différentes. Certains désirent savoir ce qu'est le connectivisme. Certains comment le critiquer et d'autres s'il est utile à leur propre expérience. Il existe également plusieurs significations d'apprentissage. Dans un sens, apprendre est l'acquisition de connaissances ou de compétences. Et c'est ce sens de l'apprentissage qui est le plus souvent associé à l'éducation et plus particulièrement à l'éducation formelle. Il existe toutefois un sens valide de l'apprentissage où l'objectif vise à atteindre un certain résultat ou à exécuter une tâche. c'est que Rogers appelle l'apprentissage axé sur les tâches. Ce type de résultat axé sur les tâches est beaucoup plus commun dans l'apprentissage informel. C'est le type d'apprentissage que je choisis, par exemple, lorsque je me plonge dans le débordement de pieds pour apprendre comment régler la valeur d'un champ avant de soumettre un formulaire Ajax. Il devient évident, que nous pouvons accéder à l'objectif de MOOC en accédant aux raisons et aux motivations des gens qui le suivent, ni d'ailleurs en accédant aux raisons et aux motivations de ceux qui l'offrent. Tout ce qu'on peut dire de l'objectif est qu'il est basé sur l'idée de créer un MOOC. Il repose sur l'idée de créer un cours en ligne ouvert, conçu de sorte à appuyer une communauté d'apprentissage importante ou même massive. Ainsi, ce sont les propriétés d'un MOOC et non le contenu en soi qui en valent la création. Nous ne créons pas un MOOC pour envoyer un message. Le MOOC est le message. Par conséquent, nous ne créerions pas un MOOC, par exemple, dans le but d'appuyer une culture ou une communauté. Un MOOC peut être un très bon ou très mauvais appareil de RP. Il peut transmettre du contenu très bien ou très mal. Peut faire progresser la recherche de beaucoup ou pas du tout, selon la personne qui l'utilise, la façon qu'elle l'utilise et les raisons. Le MOOC en tant que communauté. Comme une langue représente plus que des mots et des phrases, et une culture représente plus que des vêtements et des danses. L'éducation n'est pas simplement l'acquisition du nouveau récemment et de nouvelles compétences. Pour devenir éduqué dans une discipline, on doit apprendre des habitudes, les routines et les modes de pensée propres à cette discipline. Ce que nous apprenons par l'expérience personnelle, nous apprenons généralement ce que nous apprenons d'autres personnes. Par conséquent, l'apprentissage est une activité sociale où nous nous plongeons dans ce que Étienne Wenger appelle une communauté de pratique. Nous apprenons ce que Michael Polanyi appelle les connaissances tacites. Et nous sommes en mesure de résoudre, comme l'a résumé Thomas Kuhn, les problèmes à la fin de chapitre. L'apprentissage est une activité sociale. Et c'est pourquoi l'image de l'apprentissage où chaque personne étudie à partir de son foyer, appuyé d'un ordinateur personnel et d'une visiophone de bureau est fausse. Il y a certes place à l'étude à domicile, mais les jeunes et particulièrement les enfants ont également besoin d'une communauté. C'est pour cette raison que les MOOC de l'avenir mettront l'accent sur la communauté beaucoup plus qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. C'est la création de cette communauté plutôt que la conversation ou la transmission de tout type de contenu qui constitue l'activité principale du MOOC. Le contenu est ce qu'on appelle le MacGuffin. Il s'agit d'un objet d'intérêt qui attire notre attention, mais qui pourrait être n'importe quoi. Pour notre discussion, il est pertinent de mettre l'accent sur deux principaux types de communauté de grande importance pour les MOOC. Les deux sont pertinents pour les MOOC, mais de façon très différente. L'une est la communauté en ligne, alors que l'autre est la communauté de pair. La communauté en ligne est ce que nous pourrions appeler une communauté basée sur les internets. Elle est formée autour d'un sujet, d'une profession ou d'un domaine. Elle est semblable aux communautés de pratique d'Étienne Wenger. Bien que je crois que ma propre définition du concept est peut-être plus large que celle de Wenger. Les communautés basées sur les intérêts sont des regroupements de personnes qui, bien qu'elles soient géographiquement dispersées, partagent un emplacement commun sur l'internet. Cet emplacement est créé et défini par les intérêts partagés des membres. Étant donné l'accent mis aujourd'hui sur les MOOC et les sites de réseautage social comme Facebook et Google+, la discussion de communauté en soi a été reléguée au deuxième plan. Cela ressemble peut-être à la façon dont les réseaux communautaires correspondants ont été engloutis et rendus anonymes par les services commerciaux de marque. Les éducateurs en ligne se verront développer des communautés basées sur les intérêts qu'ils aient l'intention de le faire ou non. Puisque les caractéristiques nécessaires à la création de communautés en ligne basées sur un sujet sont présentes dans la structure de presque tous les cours en ligne. Afin de créer une communauté en ligne, il suffit à une personne d'avoir un sujet, un groupe de personnes géographiquement dispersées, intéressées à ce sujet, et un moyen de communication partagé, comme une liste de discussions ou un brevet ou une bavardoire. Les facteurs qui contribuent au succès d'une communauté sont tenus dans une certaine mesure. Cependant, cela dit, beaucoup plus de données empiriques doivent être recueillies. Mais en général, l'une des choses les plus importantes est l'appropriation. Je veux dire que les membres de la communauté jouent un rôle clé à former la communauté, puisque la communauté n'est pas un moyen de diffusion. Il ne s'agit pas d'un endroit où l'organisateur offre du matériel que les membres consomment. Il s'agit d'un environnement partagé et construit où les membres ainsi que les organisateurs jouent des rôles presque égaux dans la création de contenu. L'apprentissage dans la communauté de pratique prend la forme de ce qu'on pourrait appeler des activités de perfectionnement professionnel entre pairs, contrairement à un apprentissage formel, les membres s'aideront directement. Dans un contexte éducatif, cela signifie qu'une grande partie de l'enseignement et du matériel de l'enseignement sera construit par les étudiants eux-mêmes. Nous commençons à le constater avec l'utilisation des listes de discussion dans les cours en ligne, mais également dans la création de pages web basées sur un sujet et d'autres ressources. Les MOOCs, du moins la façon dont nous créons les MOOCs s'inspirant de ceci. Les MOOCs pour nous est pour nous un outil créé afin de relier entre elles ces voix distribuées et non pour créer une communauté, ni pour créer une culture, mais pour créer un endroit où la communauté et la culture peuvent s'épanouir. Par contre, la communauté de par presque par définition ne peut être formée sur l'Internet. Ces communautés sont formées dans nos collectivités à l'église, dans l'école, au centre communautaire, à la taverne ou à l'épicerie. Ils existeront car les gens ont besoin d'une tape dans le dos, d'une épaule, une épaule sur laquelle s'appuyer, d'un compagnon d'alcool, d'un adversaire pour jouer au squash, de quelqu'un dont la présence physique, pour une raison quelconque, est importante. Elles sont d'abord créées en raison de la proximité et composées de personnes qui habitent dans le même quartier ou qui fréquentent la même école. À plus long terme, nous pourrions dire que ce sont des personnes qui se sont rencontrées par pur hasard et qui ont découvert une affinité commune. Bien que les communautés en ligne dépendent d'un sujet ou d'un domaine d'intérêt pour exister, ce n'est pas le cas des communautés de parole. Même si les membres partagent un intérêt pour les sports ou les sciences, c'est la proximité physique qui fait en sorte que la communauté existe. Alors que les communautés en ligne sont basées sur un sujet, les communautés de parole sont basées sur une activité. Une communauté en ligne peut se réunir pour parler de hockey, alors qu'une communauté de parole se réunira pour jouer du hockey. Une communauté en ligne peut être composée de vos amis. Une communauté de parole est composée de vos voisins. Cela crée une plus grande diversité parmi les membres. Une personne pourrait être scientifique alors qu'une autre pourrait être artiste. Alors que les communautés en ligne sont composées des membres géographiquement dispersés, les communautés d'apprentissage par les parents existe dans un endroit géographique précis. Les communautés d'apprentissage par les parents sont essentielles à l'apprentissage puisqu'elles fournissent un environnement sécurité dans lequel apprendre. Une personne ne se sent pas seule sur l'Internet lorsqu'elle travaille avec une communauté de personnes aux prises avec des problèmes et défis semblables. Bien que chaque personne puisse chercher à atteindre un objectif différent en matière de l'éducation, leur objectif global et leur moyen de déplacement est le même. Et par conséquent, elles offrent un soutien, un encouragement et un réconfort mutuel. Bien que j'ai étudier la philosophie à l'université comme de nombreux autres étudiants universitaires. J'ai acquis ma véritable éducation grâce à l'interaction sociale. Personnellement, c'est dans le bureau du Gauntlet, le journal étudiant, où j'ai passé plus de temps que dans la salle de classe. C'est vrai. Les gens parlent de communauté d'apprentissage, mais à proprement parler, les communautés d'apprentissage n'existent pas, sauf peut-être les créations artificielles et forcées des établissements d'enseignement qui tentent d'entasser les classes dans les collectifs pour créer des relations interpersonnelles où ils n'existent pas naturellement. Les gens apprennent plutôt en communautaire et ce qui ferait d'une communauté donnée, une communauté d'apprentissage ou autre, et le fait que les membres de la communauté apprennent plus ou moins bien. Une contribution francophone comprendrait un soutien pour une communauté en ligne, ainsi qu'un soutien pour la communauté de part. Il devrait être évident de nos jours que les communautés sont cultivées plutôt que construites. Puis, la valeur d'une communauté et particulièrement d'une communauté d'apprentissage vient de la diversité de cette communauté. Des étudiants se rassemblent autour d'une structure précisément puisque ce dernier possède des connaissances, des croyances et des opinions qui ne sont pas partagées par les étudiants. Ils se réunissent ensemble car chacun d'entre eux vit des expériences uniques. Promouvoir une communauté d'apprentissage relève autant de l'attention apportée aux différences que de l'accent mis sur les similitudes. Il existe des menaces et des possibilités dans ce modèle pour des groupes linguistiques et culturels particuliers, comme la communauté francophone. Les établissements prestataires peuvent être situés n'importe où. Les MOOC s'adressent à un auditoire international, comme Hangout on Air avec un viewer. Bonjour, le seul viewer. Même aujourd'hui, je vois des annonces de cours affichées presque tous les jours sur des niveaux MOOC, plutôt que des cours offerts par des universités individuelles ou par edX ou Coursera. Il est maintenant possible de suivre un cours sur pratiquement n'importe quel sujet, à partir de pratiquement n'importe où dans le monde. Le risque est bien sûr...
My battery is running low.
Oui, mais j'ai seulement 5 minutes. Alors, c'est parfait. Le risque est bien sûr le même que celui créé pour toute média en masse. Mais j'ai 10 minutes ici. Un problème. Et je ne veux pas vite. Avancez. L'un des rares MOOC francophones est probablement le mieux connu, était le MOOC ITYPA, Internet tout y est pour apprendre, offert principalement par l'entremise de l'École centrale de Nantes et taught cursive. Le site web de langue française consacré à l'éducation et à la culture numérique. Une autre mot récemment complété est ABC Gestion de projet. L'école de droit de la Sorbonne offre un MOOC appelé Sorbonne Droit sur les mécanismes d'organisation et l'exploitation des entreprises au cours de 6 semaines qui débutera en septembre. La seule université offrant présentement un MOOC en français par l'entremise de Coursera est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Le cours entier les étudiants à la programmation Java en français. Et aussi avec mes collègues de l'Université de Moncton, je participerai à la création du MOOC de langue française sur les sources éducatives ouvertes, qui sera offert en collaboration avec l'OIF à l'automne prochain. On ne peut pas entendre des MOOC francophones. Ça, c'est la raison, les communautés de parole sont essentielles. Les communautés de parole francophones impliquées dans les MOOC mondiaux sachent que même dans les MOOC anglophones, une contribution et une communauté francophone sont présents. Toutefois, les étudiants potentiels se trouvent face à une vaste gamme de possibilités d'éducation en ligne ouverte. Mon propre site web MOOC.ca énumère des certaines, peut-être même des milliers de cours en ligne ouverte. À mon avis, il n'est pas suffisant d'offrir des cours et des programmes de langue française. La culture et la langue française devraient être présentes dans toutes les communautés et tous les cours, même ceux qui sont essentiellement anglophones. Les MOOC que j'ai conçus et élaborés avec George Simmons ont été spécialement conçus pour favoriser la participation d'une mosaïque de culture. D'autres musiques plus traditionnelles rendent la participation plus difficile, mais la clé de la participation à ces cours est de convertir un cours statique, une ligne, à mon présentation en une communauté multilingue et multiculturelle en plein essor. Nous pouvons constater ceci dans d'autres cours en ligne par l'entremise d'un meet-up. Un bon exemple est le groupe francophone, le club meet-up francophone d'Austin. Cela semble si simple que faire pour appuyer ces groupes. Quelles ressources sont disponibles? Quels cours en ligne sont offerts en français? Pourquoi est-ce que important, particulièrement dans le contexte de promouvoir la langue et la culture? C'est intéressant de souligner que les théoriciens